Le magazine des Nations Unies.
Au sommaire, 49% des ménages congolais ont utilisé l'eau salubre en 2014 et 20,5% des installations sanitaires améliorées. Selon les derniers rapports conjoints UNICEF-OMS sur le progrès dans les objectifs du millénaire pour le développement en matière d'assainissement et d'eau potable, un individu sur trois dans le monde vit toujours sans installation sanitaire. Les détails dans cette édition. Encore des chiffres, plus de 1000 victimes de la torture et au moins 6 officiers condamnés en RDC au cours des 12 derniers mois. Bilan dressé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à l'occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture célébrée le 26 juin dernier. Enfin, l'éducation nationale à l'heure du numérique. Un projet innovant utilisera désormais les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la collecte des données et l'élaboration de la carte scolaire numérique en un temps record. Coût du projet, $2,650,000.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour mesdames et messieurs. 2 milliards 400 millions de personnes dans le monde sans installation sanitaire, dont environ 946 millions font leurs besoins en plein air, selon l'UNICEF et l'OMS qui donnent ces chiffres dans le rapport conjoint sur les objectifs du millénaire pour le développement OMD portant sur l'eau et l'assainissement. L'absence de progrès en matière d'assainissement menace de compromettre les gains qu'un meilleur accès à l'eau potable a permis d'obtenir pour la survie et la santé de l'enfant. La RDC, quant à elle, reste parmi les nations le plus à la traîne au monde dans le domaine d'accès à l'eau et au système d'assainissement. Florence Marshall, chargée de communication du système onusien en RDC, a fait l'économie de ce rapport mercredi dernier à la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. Un extrait de ses propos sélectionné par Honoré Misenga Kalala.
Selon le rapport conjoint OMS-UNICEF, un individu sur trois dans le monde vit toujours sans installation sanitaire. La RDC reste dans ce domaine parmi les pays les plus à la traîne, même si selon l'étude démographique et de santé 2013-2014, on a pu noter un léger progrès en termes d'assainissement. La proportion des ménages utilisant de l'eau de boisson salubre provenant d'une source améliorée est passée de 46% en 2007 à 49% en 2014 et l'accès aux installations sanitaires amélioré est lui passé de 13,5% en 2010 à un peu plus de 20% en 2014. Le programme national des villages et écoles assainies qui a été initié en 2006 en RDC et dont la deuxième phase a été lancée il y a quelques mois a contribué à ce progrès. Ce programme auquel participent aux côtés du gouvernement l'UNICEF, la coopération britannique USAID et plusieurs comités nationaux pour l'UNICEF garantit aujourd'hui l'accès à l'eau et l'assainissement de 3 millions de personnes dans le pays.
Autre actualité, c'est ces SOS du Bureau des coordinations des affaires humanitaires au Tchad. L'épidémie de la rougeole s'étend dans l'est du pays. Pendant les 5 premiers mois de l'année, le Katanga a, à lui seul, enregistré plus de 12 000 cas. Et jusqu'à ces jours, pas encore assez de moyens mobilisés pour stopper l'extension de cette épidémie. Yvon Edoumou, chargé de l'information publique et du plaidoyer à Tchad, l'affirme au micro d'Honoré Misenga Kalala.
Aujourd'hui, c'est une situation qui est assez inquiétante parce qu'on a le Katanga qui, au cours de ces 5 derniers mois, a enregistré un peu plus de 12 000 cas. Il y a aussi des cas qui sont enregistrés dans d'autres provinces de l'Est, notamment le Maniema. Le Congo est en train de vivre une situation qui est assez inquiétante. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements humains et financiers sont faits pour d'autres maladies, telles que le choléra, d'autres maladies. Mais la rougeole reste un peu le parent pauvre en termes de financement humanitaire. Sans appui conséquent, appui financier, sans les intrants qui sont nécessaire, on va voir une augmentation des cas qui va toucher beaucoup de personnes. L'est du pays est déjà une zone qui est assez fragile sur le plan sanitaire, avec d'autres pathologies qui sévissent comme le paludisme, le choléra, la malnutrition. Il ne faudrait pas encore que la rougeole vienne aggraver leur situation.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous l'avons dit dans le titre, 2 650 000, c'est le montant débloqué par la Banque mondiale avec l'appui technique de l'UNESCO pour mettre en œuvre le projet Système de gestion de l'information du programme d'éducation et cartographie des écoles, SIG en sigle. L'atelier sur le projet a été lancé le mercredi dernier à Kinshasa. Selon les directeurs de la planification à l'EPSP, il s'agit d'un programme innovant qui va utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la collecte des données et l'élaboration de la carte scolaire numérique. François Koubindikila explique les facettes de ce projet qui ne manque pas d'intérêt. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
François Koubindikila, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes directeur de la planification à l'EPSP. Vous venez de présenter un projet intéressant, projet SIG et carte scolaire numérique. Expliquez-nous, monsieur, ce projet.
Merci, monsieur le journaliste. Le projet, c'est système d'information pour la gestion de l'éducation, c'est le SIG en sigle, et carte scolaire. C'est un projet qui va être financé par la Banque mondiale. Et dans sa mise en œuvre, les 4 ministères clés en charge de l'éducation, parce qu'ils sont concernés par le projet, ils seront accompagnés par l'UNESCO.
Quels sont les 4 ministères concernés par le projet?
Les 4 ministères, l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, l'enseignement supérieur et universitaire, l'enseignement technique et professionnel, et le ministère des Affaires sociales en ce qui concerne l'éducation non formelle.
Revenons un peu à ce projet lui-même, expliquez-nous.
Le projet, en fait, va aider le ministère à organiser son système d'information pour la gestion de l'éducation par la mobilisation d'un certain nombre d'informations dont on a besoin pour gérer le système, pour piloter le système, pour mesurer les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de différents projets et programmes qui sont en cours d'exécution dans le secteur de l'éducation. Donc il y a 2 volets, les systèmes d'information pour la gestion de l'éducation. Là, c'est essentiellement la mobilisation des données statistiques et la carte scolaire, c'est essentiellement voir comment les écoles sont implantées à travers le pays. C'est pour voir les disparités qui existent en matière de l'offre scolaire.
Vous parlez également de la production des données statistiques. Et quel est le lien entre ce projet que vous appelez SIG et carte scolaire et la production des données statistiques?
Je l'ai dit, le projet va aider les secteurs de l'éducation, donc les 4 ministères clés en charge de l'éducation, à mobiliser des données statistiques. Donc, il y aura la collecte des données et l'innovation dans ce projet, c'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, TIC en sigle. Parce que actuellement, nous n'utilisons pas ce système-là. C'est une innovation. Pour le moment, nous utilisons des outils de collecte en version papier que nous envoyons dans les écoles. Et les écoles remplissent les questionnaires. Ces questionnaires remontent jusqu'au niveau central et nous traitons ces données et on finit par publier les annuaires statistiques. Mais ce qui est une innovation, c'est qu'au lieu d'utiliser les outils papier, nous allons utiliser les tablettes, nous allons utiliser les téléphones mobiles et nous allons utiliser la connexion Internet pour mobiliser, pour collecter les informations. Et ce que nous gagnons, c'est en termes de temps, de rapidité. Parce que quand nous utilisons la version papier, les papiers qui sont imprimés à Kinshasa, qui doivent arriver jusqu'au niveau des écoles en passant par les divisions provinciales et les sous-divisions, et qui doivent remonter pour leur traitement au niveau national. Or, pour le moment, nos agents au niveau des divisions et des sous-divisions, ils vont aller dans les écoles avec des tablettes, ils vont saisir directement les données, et ces données vont remonter. Il y aura des serveurs au niveau des provinces éducationnelles, des serveurs au niveau national. Donc vous voyez, on gagne en termes de rapidité dans la collecte des données.
Et il y aura bien sûr aussi un serveur au niveau central.
Il y aura un grand serveur au niveau central. Donc leurs excellences, messieurs les ministres en charge de l'éducation, dans leur bureau, il suffira d'appuyer sur un bouton. Si monsieur le ministre a besoin de savoir combien d'écoles il y a, par exemple, dans tel territoire, dans telle sous-division, Il suffira d'appuyer sur un bouton et ce système va lui présenter la suite.
Revenons un peu au financement. Quelle est la durée de ce projet et qui finance et à quelle hauteur?
La durée du projet, c'est 3 ans. C'est un financement de la Banque mondiale à hauteur de 2 600 000 $ américains.
Et quelle est la part de l'UNESCO? Qu'est-ce qu'il apporte?
Oui, l'UNESCO apporte un financement additionnel.
De combien?
De 500 000. C'est ce qui va nous permettre d'étendre le projet à 2 provinces qui n'étaient pas initialement prévues, à savoir le Nord et le Sud Kivu.
Pour terminer, vous parlez du Nord et Sud Kivu. Là, c'est l'extension du projet. Mais quelles sont les provinces concernées par ce projet?
Les provinces avec l'extension au Nord et Sud Kivu, il y en a 8. Donc, il y a l'Équateur et le Kasaï occidental. Il y a le Bas-Congo et le Katanga. Il y a la province orientale et le Maniema.
Kasaï oriental n'est pas concerné, le Bandou n'est pas concerné. Pourquoi?
Pourquoi en fait, dans un premier temps, le financement n'est pas suffisant pour aller dans toutes les... Je crois que le secrétaire général représentant son excellence, monsieur le ministre, l'a indiqué. Nous demandons aux autres partenaires de se joindre à nous pour nous aider à retrouver ce financement qui va permettre au projet de couvrir les 11 provinces du pays.
Monsieur le directeur, vous êtes chargé de la planification à l'EPSP et je vous remercie.
Merci monsieur le journaliste.
Ouvrons cette page par des nouvelles du HCR. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés note un afflux de réfugiés burundais dans la région des Grands Lacs. 131 980 au total, 66 612 en Tanzanie, 45 740 au Rwanda, 10 590 en RDC et 9 038 en Ouganda. En RDC, la majorité de ces réfugiés burundais sont signalés surtout dans la province du Sud Kivu. Et le HCR précise qu'au 30 juin 2015, 5 000 réfugiés burundais ont été transférés sous le site de Lucenda où une assistance multisectorielle est fournie par cette agence onusienne et ses partenaires. À la MONUSCO, la visite de travail de l'adjoint au conseiller chargé de questions de police à la division police du département des opérations de maintien de la paix a pris fin le lundi 29 dernier. La visite avait commencé le 22 juin. Pendant son séjour, M. Schwab Dachtig a pu rencontrer aussi bien à Kinshasa qu'à Goma et à Beni les autorités de la MONUSCO, dont celles de UNPOL et des partenaires congolais, y compris les responsables de la police nationale congolaise PNC. Enfin, 400 éléments de la police nationale congolaise du Nord qui vous formaient par l'UNPOL. La cérémonie de fin de formation a eu lieu le 27 juin dernier à Rutshuru. Ces nouveaux formés de la PNC venaient des territoires de Masisi, Walikale, Rutshuru et de la ville de Goma. Au cours de cette cérémonie présidée par le commissaire provincial de la PNC, le général Awachango Vital, ce dernier a remercié la MONUSCO et sa composante UNPOL pour leur soutien constant dans la remise à niveau de ces hommes. Le commissaire provincial a en outre sollicité un accompagnement de l'UNPOL pour pérenniser les acquis réalisés.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
551 cas de traitements inhumains, dégradants et de tortures, un peu plus de 1000 victimes et au moins 6 officiers de l'armée et de la police condamnés pour torture. C'est l'état des lieux de la torture durant les 12 derniers mois en RDC. Bilan dressé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, dans le cadre de la célébration le 26 juin dernier de la Journée internationale des soutiens aux victimes de la torture. Le directeur du BCNUDH, qui a donné ces chiffres, reconnaît toutefois que le chemin est encore long et les efforts doivent être menés, y compris la politique de la tolérance zéro contre l'impunité, pour lutter efficacement contre la torture. José Maria Aranaz est l'invité de Magazine des Nations Unies. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko.
José Maria Aranaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le 26 juin dernier, le monde s'est souvenu de la journée des soutiens aux victimes de la torture. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la torture?
Je vais vous dire que la torture, c'est une pratique criminelle et exécrable condamnée par la législation internationale et la législation domestique de la République démocratique du Congo, qui consiste à appliquer les douleurs et les souffrements physiques pour obtenir la confession pour punir quelqu'un d'une manière inhumaine. Ça peut consister à appliquer les douleurs physiques ou psychiques.
Physique. Parlons un tout petit peu de la situation de la torture en République démocratique du Congo aujourd'hui. Près de 4 ans après la promulgation de la loi sur la criminalisation de la torture, et je vous apprends qu'il n'y a pas longtemps, l'ONG Pélican, c'est à Bounia, dénonce 11 cas de torture sur 25 détenus, soit 44% des cas dans cette prison de Bounia. Quelle est aujourd'hui la situation de la torture en République démocratique du Congo, et notamment dans nos prisons?
Il faut commencer par dire que même si la torture était criminalisée par les lois de la République démocratique du Congo, il y a encore des cas de torture documentés. Vous avez parlé du rapport de l'ONG Pelican, mais nous avons aussi documenté pendant les 12 mois passés, depuis Juliette l'année passée jusqu'à juin cette année, 551 cas de traitements cruels, inhumains, dégradants et de torture, plus de 1059 victimes documentées par notre bureau. Le cadre légal, c'est important. Les efforts des autorités pour éradiquer ces pratiques criminelles et dégradantes sont très importants. Les visites que les autorités nationales ont prises pour visiter les différentes prisons dans le pays sont très importants pour documenter les cas de torture, mais c'est important de faire plus, de renforcer les efforts de différentes manières.
Oui, à l'occasion même de cette journée, vous avez fait sortir un communiqué, conjointement avec M. Kobler, et dans ces communiqués, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous félicitez des efforts du gouvernement dans la lutte contre l'impunité due à la torture notamment. En quoi alors consistent ces efforts concrètement sur le terrain, alors qu'une frange des Congolais voit justement le contraire, c'est que la torture continue dans nos milieux, notamment dans nos prisons?
Comme j'ai dit, le chemin est loin et tous les efforts sont nécessaires pour éradiquer la torture qui est encore continue. Et nous avons déjà donné notre appui aux visites des ministres de la Justice et Droits de l'Homme et des vice-ministres pour les visites à différentes prisons du pays pour documenter les cas de torture, comme par exemple dans la visite qu'ils ont pris à Bandanga, à la prison là-bas. Nous sommes conscients déjà qu'il y a eu plusieurs officiers de la police et de la force armée. Au moins 6 individus ont été condamnés pour torture, donc 4 étaient membres de la police et des de la force armée.
Et c'est pendant quelle période?
Depuis les derniers 12 mois. Les autorités judiciaires ont pris très sérieusement les cas de torture, mais il faut aussi continuer avec les efforts pour vulgariser la loi, pour continuer les trainings et pour prendre l'action décisive pour éradiquer la torture.
Donc vous parlez de tolérance zéro parce que cela peut jouer un rôle persuasif, c'est ça?
Oui. Et ce qu'on a demandé publiquement, c'est de faire un rappel public aux autorités pour avoir une politique de tolérance zéro. Ça veut dire tous les cas documentés, il faut être jugé. Il faut aider aux autorités à éradiquer la torture, mais il faut aussi aider à avoir l'accès aux centres de prison pour la société civile, pour l'Organisation des droits de l'homme, pour les Nations Unies, aux tous centres de détention. Même les prisons, les cachots, les amigos, les centres de la police, les centres de détention militaire et les centres de l'ANR.
Est-ce que l'appui du bureau que vous dirigez, le bureau conjoint, se limite seulement à des visites des prisons ou est-ce que vous avez une autre sorte d'appui au gouvernement et au niveau même des prisons?
Notre bureau fait le monitoring régulièrement au centre de détention ordinaire. Nous n'avons pas encore l'accès au centre de détention de l'ANR. On fait aussi les trainings pour les autorités de la police et de l'armée. On contribue à la formation de la police aussi avec notre collègue de UMPOL. On contribue à documenter les cas qu'on donne aux autorités judiciaires pour prendre l'action postérieure et nous sommes prêts pour donner aussi l'appui logistique pour les visites des autorités au centre de détention.
Mais là aussi, dans les centres de détention et disons dans nos prisons, les conditions de vie sont déplorables. Est-ce que de ce côté aussi, vous essayez d'apporter votre appui pour améliorer tant soit peu ces conditions, par exemple, délabrement des prisons?
Oui, nous sommes prêts à faire ça, mais il y a aussi un programme dédié des Nations Unies pour les questions des centres de détention et la condition de vie là-bas.
Alors, nous venons de faire le tour d'horizon complet autour de cette journée. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser à la population congolaise à l'occasion de cette journée?
Comme je dis, le chemin est loin. Il faut éradiquer la torture. Et pour éradiquer la torture, la première chose, c'est dénoncer la torture. Dénoncer la torture, il faut faciliter la transparence et l'accès aux centres de prison, il faut vulgariser la loi et il faut contribuer avec les trainings et la formation de tous les agents publics qui sont impliqués dans les cas de détention. Mais plus important, c'est aussi de donner l'appui aux victimes de torture. Les victimes de torture et la famille ont besoin d'être appuyés par les gouvernements et par la communauté internationale.
Voilà. Nous rappelons à nos auditeurs que nous recevions M. José Maria Aranaz, qui est directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. Monsieur Aranaz, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Plus qu'aucun ex-combattant au centre d'hébergement de Kotakoli, la responsable du programme DDRR de la MONUSCO, TAG, Grayling, l'a affirmé mercredi dernier au cours de la conférence des presse hebdomadaires des Nations Unies à partir de Goma. 650 ex-combattants avaient déjà atteint Kamina au Katanga, alors que 234 autres se trouvaient encore en transit à Guadolité, dans la province de l'Équateur, pour leur évacuation, les uns vers Kitona dans le Congo central et les autres vers Kamina encore. Revenons sur les débuts des opérations lancées par les ministres de la Défense nationale avec Paul Richard Malengela.
D'après des sources concordantes, il y a eu ce mercredi 3 rotations aériennes. Elles ont évacué 168 personnes, dont des ex-combattants démobilisés et leurs dépendants. Une dizaine de vols ont déjà eu lieu depuis le lancement des opérations vendredi dernier par le ministre de la Défense nationale, Aimé Mokeni. Sur les 1206 personnes arrivées en transit à l'aéroport de Guadolité, il ne reste plus que 422 personnes, souligne la 13e région militaire. Et malgré la crainte des habitants du quartier Mwanda autour de l'aéroport, la cohabitation a été pacifique et aucun incident n'a été signalé jusque-là. Toutes ces rotations ont été effectuées seulement en direction de la base militaire de Kamina dans le Katanga. Car, explique nos sources, Kamina réunit toutes les conditions requises pour l'accueil et l'apprentissage de ces ex-combattants démobilisés. Aussitôt arrivés, ajoutent nos sources, ces stagiaires vont commencer le processus de leur réinsertion sociale pendant 9 mois, notamment l'apprentissage de petits métiers au choix pour qu'ils redeviennent autonomes et utiles à leur retour dans les milieux d'origine. Rappelons que ces ex-combattants étaient issus des 7 groupes armés à l'est du pays, dont des Mai Mai Nyatura, des MCC, des M23 et le groupe Alléluia. Bandaka pour Chamalengue, la Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Ne serait-il pas nécessaire d'envisager une réponse régionale pour contrer le possible caractère terroriste des ADF? Question posée mercredi dernier à partir des Béni au général Jean Bayo. Suivez la question et la réponse.
C'est Luembo Erickson, correspondant Top Congo. La MONUSCO met tout en œuvre afin de sécuriser la population. La question de rebelles ougandais ADF dans la région de Beni persiste plus de 10 ans. Que pense la MONUSCO afin de dégager une stratégie qui peut être semblable à celle de la République nigérienne, qui peut mettre ensemble le pays de la région afin de combattre ce mal qui est le problème terroriste qu'on ne doit pas abandonner à la seule RDC?
C'est une question très pertinente, puisque comme ça a été dit à plusieurs reprises, il faut considérer, s'agissant d'ADF, sa dimension originelle. D'abord, c'est un groupe d'origine ougandaise, effectivement. Deuxièmement, sa dimension régionale, puisqu'il a des sources de recrutement, effectivement, de l'autre côté de la frontière. Et troisièmement, comme vous le dites également, Il a une dimension de nature terroriste qui doit être prise avec extrêmement de sérieux, de manière à ce que ne se développe pas dans cette région, l'est du Congo, ce qui se passe dans d'autres régions de l'Afrique. Cela me donne l'occasion, effectivement, de dire qu'avec les autorités de votre pays, la MONUSCO est totalement engagée pour non seulement combattre cet ennemi sur le plan militaire, mais aussi appuyer les autres dimensions d'une stratégie qui doivent effectivement permettre de tuer dans l'œuf cette situation. Je sais que ça est dur depuis 20 ans dans la région, mais ce qui nous inquiète, c'est l'avenir, c'est la possible transformation de ce groupe en menace encore plus forte, comme on le voit dans d'autres parties de l'Afrique. Nous n'en sommes pas là et nous considérons qu'il y a les moyens au niveau national, au niveau de la MONUSCO et au niveau régional de non seulement maîtriser cette situation, mais surtout d'empêcher son développement.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Yves Villemot. Je suis chef de la communication à l'UNICEF en République démocratique du Congo. J'ai 49 ans. Je suis marié et père de 3 enfants de 17 ans et puis des jumeaux de 12 ans. Je suis en République démocratique du Congo depuis octobre dernier et très heureux de l'être. Même si je suis seul ici, la famille est restée en Belgique, je suis de nationalité belge. Au sein de l'organisation UNICEF ici en RDC, j'essaie donc de promouvoir les droits de l'enfant à travers le pays tout entier, de mieux faire connaître la situation des enfants à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, et de promouvoir l'action que met en place l'UNICEF en appui au gouvernement pour améliorer la situation des enfants en République démocratique du Congo. En ce qui concerne mon passé, mon passé est assez simple à décrire puisque je travaille depuis 89 pour l'UNICEF. J'ai une énorme motivation pour la cause des enfants. J'ai commencé en 89 pour l'UNICEF à un moment qui était particulièrement symbolique pour l'UNICEF puisque c'est en novembre 89 que le monde a adopté la convention relative aux droits de l'enfant, qui est le texte par excellence sur lequel l'UNICEF base son action à travers le monde entier, y compris en République démocratique du Congo. J'ai tendance à travailler beaucoup parce que les besoins des enfants sont importants ici dans le pays, mais j'ai quand même de temps en temps un peu de temps libre et j'essaye de me forcer à me donner un peu de temps libre. Pendant ce temps libre, je pratique du sport, je fais du jogging, j'aime bien faire du cyclisme. C'est un peu plus difficile en République démocratique du Congo et à Kinshasa, mais j'ai la vaste intention de trouver une manière de m'organiser pour faire du vélo également ici à Kinshasa. Et bon, je profite aussi de la culture et de la vie congolaise. C'est vrai que quand je parle à des amis en Belgique ou en Europe de ma présence ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, on me pose chaque fois la question au niveau de la vie culturelle, au niveau de la musique, parce que s'il y a bien quelque chose pour lequel le Congo est bien connu, c'est sa musique, c'est sa joie de vivre, donc j'essaie d'en profiter un peu. Et puis j'essaie aussi de profiter un peu du pays, parce que le pays est beau, il est beau au niveau de ses paysages, de sa culture, de sa nature, mais également au niveau de ses populations. Donc j'ai eu la chance de me déplacer un peu, pas encore assez, mais me déplacer un peu sur Goma, sur Lubumbashi, et ici sur la province de Kinshasa, et puis au Bas-Congo. Bon, les musts tels que les chutes de Dzongo, par exemple, j'ai été ébloui par voir la beauté de la nature aux chutes de Dzongo. En ce qui concerne l'avenir, je crois que pour moi, il sera difficile un jour de travailler pour une autre organisation, une autre entité que de l'UNICEF. Donc j'ai la vaste intention de continuer mon parcours au sein de l'organisation. Bon, ce sera sans doute pas pour le restant de ma vie en République démocratique du Congo, mais il y a plein d'autres pays à découvrir et plein d'autres pays où du travail est à faire. Donc ça, c'est un projet que je prépare un peu pour les années à venir. Je souhaite dire bonjour à tous les auditeurs, leur souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, être attentif à la cause des enfants autour d'eux, de bien profiter de la vie et de s'assurer que les enfants puissent bien profiter de la vie. J'aurais voulu faire toute l'interview en Lingala, mais malheureusement mes capacités restent très très limitées, donc je me limiterai à un mot qui me vient à l'esprit, beauté.
magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un seul rendez-vous à noter, le 11 juillet, sera la journée mondiale de la population. Merci d'avoir suivi ce magazine qui était coordonné par Jean-Pierre Elali Koko. La mise en onde était assurée par Sylvain Matundu. Honoré Misenga était au reportage et Nadine Foulantimba vous l'a présenté. Restez branchés sur le programme de Radio Capi.